Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, ici Lucie, vous écoutez l'AREN, l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour. Cet été à Rennes, c'est une riche programmation pour animer la saison. Le quatrième et dernier épisode de la série de reportages sur Rennes 2, La Rouge. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, la rediffusion de l'interview avec Philippe Baron, réalisateur et auteur du livre La part d'ombre de la libération. Et puis une recommandation pour terminer, une rencontre avec une autrice rennaise. C'est mercredi, bienvenue dans l'AREN. Et c'est parti, l'émission d'information locale, elle commence toujours avec une info du jour, une en tout cas choisie parmi d'autres dans la presse locale. Aujourd'hui, parce qu'il faut aussi résister à la situation politique actuelle par la joie et la mise en mouvement, eh bien on annonce cet été à Rennes, 5e édition. Une programmation multipartenariale qui est pilotée par la ville de Rennes, qui a commencé ce week-end, samedi 22 juin. Et donc jusqu'au 1er septembre, eh bien cet été à Rennes, c'est de la culture, du sport et des loisirs pour toutes et tous. Aux quatre coins de la ville. Plus de 500 animations en tout qui sont souvent gratuites. Le détail est à retrouver en ligne sur ete.rennes.fr. On commence avec le sport. Au programme, des villages sportifs multi-activités dans plusieurs parcs de quartiers populaires. 10 spots au coin de la rue. Ça, c'est pour découvrir les disciplines de plusieurs clubs sportifs. Il y aura une caravane du sport dans 18 places et parcs de Rennes. Comme l'année dernière, il y a aussi le Blizz qui va enlever son manteau d'hiver et enfiler ses patins à roulettes. Et puis, si on aime l'eau, des activités nautiques en plus des piscines qui restent ouvertes, également des navettes pour rejoindre les étangs d'Apignier ou encore des pataugeoires dans plusieurs parcs rennais. Si on a le cœur qui bat plutôt côté nature, de nombreuses associations proposeront des ateliers sciences et biodiversité. 3 fermes urbaines ouvriront leurs portes et puis de nouveaux espaces sont à découvrir dans la ville, comme le parc de Borgard-Quincé qui est encore assez récent ou encore le fraîchement inauguré jardin chinois de Maurepas. On arrive à la culture, là non plus pas de quoi s'ennuyer, avec des bibliothèques hors les murs, la 4e édition d'Exporama, c'est le rendez-vous annuel de l'art contemporain à Rennes, à vivre au Champ Libre, au Musée des Beaux-Arts et au FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain. Dès le 6 juillet, chaque soir, vous pourrez aussi découvrir la 15e édition des projections sur le Parlement de Bretagne, thème retenu cette année pour l'amour du sport. Et puis la culture, c'est aussi du cinéma qui sera diffusé en plein air, 11 séances au total, là aussi sur le thème du sport. Et puis il y a Stanford, bien connu, Transat en ville, une programmation culturelle à découvrir du 11 juillet au 17 août, à travers de nombreux spectacles et même 2 balles. On termine avec un mot sur le dispositif Vacances pour tous. Cette année, le budget il est doublé. L'objectif, c'est de permettre à plus de 4000 Rennais de partir en vacances en lien avec des associations partenaires. Et puis il y a aussi ces excursions Rennes à la mer et au vert. Des voyages en car, il y en aura 13 qui sont organisés chaque lundi et mercredi. Billets en vente à partir du 4 juillet du côté de la Maison des aînés et des aidants de Rennes. Allez, après ce long programme, on passe au reportage du jour. Et ce reportage, eh bien, c'est le 4e et dernier épisode de Rennes 2, La Rouge, une série de sujets réalisés par Corentin Petitclerc, volontaire en service civique. Avant de terminer son volontariat à Canal B, il a souhaité questionner la place des luttes politiques entre les murs de l'université Rennes 2. Et aujourd'hui, on termine avec un épisode sur un espace à conserver.
Rennes 2, La Rouge, épisode 4, un espace à conserver. Quand on passe un peu de temps à Rennes 2, on se rend compte qu'un certain nombre de militants et d'étudiants semblent particulièrement attachés à ce campus. Il peut parfois être considéré comme un espace à part, mais qui, comme le reste de l'espace public, est amené à changer en suivant les modifications de la société. Comment cette fac évolue-t-elle? Quels impacts ces changements pourraient-ils avoir? Comment imaginer d'autres lieux politiques? Dans cet épisode, Camille, Ninon et Théo se questionnent sur l'évolution de ce lieu et parlent de l'importance pour les militants de le conserver.
Est-ce que tu penses que Rennes 2, c'est un lieu qui est, à l'échelle de l'espace public, est-ce que c'est un lieu qui est plutôt à part?
Bah, je trouve que oui, parce que les universités ont un statut quand même assez particulier. Parce que voilà, c'est des lieux ouverts où on a accès à plein de choses. Bah, par exemple, ouais, les bibliothèques universitaires, des salles, des bâtiments, les infrastructures, profiter de la pelouse, du soleil, des choses comme ça. Puis il y a toujours cette particularité de, par exemple, la police ne peut pas intervenir comme elle le veut. Ça reste, entre guillemets, un établissement scolaire. Mais avec plus de liberté que quand t'es au lycée. Les gens, en plus, ils sont dans un truc de se dire, bon, voilà, là, je vais en cours, je vais apprendre des choses ou pas, je vais rencontrer des gens, je vais manger le midi, prendre le temps entre deux cours. Pour moi, ça provoque des instants qui sont encore un peu en dehors du monde du travail. Et c'est des instants qui sont assez importants, je pense, pour justement quand t'es jeune adulte, pour savoir ce que tu veux faire, pour savoir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas.
Moi, j'ai quand même une vision de ça qui va être très biaisée, parce que bah, c'est mon lieu d'études. C'est aussi le lieu où je passe beaucoup de temps, parce que je m'investis politiquement là-bas. Donc forcément, je le vois d'une manière qui est particulière, parce que je fais là-bas des choses que je pourrais pas faire dans le reste de l'espace. Et donc oui, pour moi, effectivement, c'est un lieu qui est un peu privilégié politiquement, et en termes d'auto-organisation, c'est un lieu qui est particulier, parce qu'il peut en émaner des choses qui ne pourraient pas sortir d'autres endroits. Mais si on essaie de parler de manière un peu genre objective, je pense pas que ce soit un lieu qui est genre extraordinaire, phénoménal et tout. Genre, je pense que c'est juste, on est contraint de devoir se saisir de cet espace-là et uniquement de cet espace-là, et parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on peut pas se saisir de l'espace public.
Dans tous les facs, il y a des conseils étudiants, donc il y a une certaine autogestion plus ou moins forte d'une fac à l'autre. À Rennes 2, c'est vrai qu'on a une très forte autogestion sur pas mal de choses, que ce soit, comme je disais, la vie associative, soit par exemple, on va dire, au niveau de l'alimentaire, déjà, par rapport aux distributions alimentaires, mais aussi par rapport au fait qu'on a une crêperie associative où justement c'est gratuit, qu'on a un bar associatif. Donc on a vraiment une certaine autogestion sur pas mal de choses. Donc oui, Rennes 2 reste un lieu à part de l'espace public malgré tout. C'est un lieu d'enseignement avec énormément de possibilités éducatives. À cela, t'ajoutes tout ce qui est associatif, tout ce qui est syndical, ça reste un lieu vachement intéressant et assez à part de l'espace public. Mais l'université fait du coup partie de cet espace public.
Est-ce que tu penses que le paysage politique qui est présent un peu autour de la fac, il va évoluer ?
Ouais, je pense qu'il va un peu évoluer. Je pense un truc, enfin un danger d'ailleurs qui arrive, même si ça a toujours été un peu le cas, j'ai l'impression en tout cas moi personnellement que ça augmente un peu et que c'est un danger, c'est qu'on remarque quand même une augmentation des syndicats de droite à venir sur la fac, même si ça reste assez minime, mais je pense genre notamment, enfin en tout cas moi ce que j'ai vécu, il y a un an avant que j'arrive à la fac je pense, il n'y avait pas autant de présence en tout cas de la droite et de l'extrême droite sur le campus, même si elle reste très minime comparée dans le reste de la ville. Mais j'ai l'impression qu'il y a une légère augmentation de la venue de certains syndicats d'extrême droite sur le campus. Est-ce que ça va évoluer ou pas ? Dans le temps long, j'ai du mal à avoir une vision extérieure.
Moi, j'ai peur que ça aille sur la pente descendante. Il y avait notamment le président, qui est un nouveau, qui est arrivé l'été dernier, qui disait « Rennes 2, La Rouge, c'est terminé maintenant ». Du coup, on sent que ça les gêne, le fait qu'il y ait de l'organisation autonome à Rennes 2. Il y a le préfet aussi, du coup, qui, là, a mis un petit peu son œil sur Rennes 2 en nous traitant de terroristes d'ultra-gauche. Du coup, j'ai peur qu'il y ait de la répression. J'ai peur que, au bout d'un moment, avec les dynamiques qu'il y a de répression administrative, avec les dissolutions, ce qui a été tenté avec les soulèvements de la terre, ce qui a été fait à Lyon avec la Galle, ce qui a été fait à Nancy avec le bloc Lorrain, j'ai peur que ça touche Rennes à un moment donné et que du coup ça empêche l'organisation. Et au niveau de la fac, j'ai peur qu'à un moment donné, la présidence change, la mentalité change à la présidence et qu'il y ait de la répression au sein de la fac, qu'on puisse plus avoir accès aux salles, qu'on puisse plus avoir accès aux amphithéâtres, qu'on puisse plus rentrer si on n'est pas étudiant-étudiante. Bref, j'ai peur qu'il y ait un flicage, globalement, et que ce soit de plus en plus difficile, mais c'est parce que juste je suis un peu pessimiste dans ma tête. Mais en soi, si on regarde objectivement, c'est quand même quelque chose qui risque d'arriver à un moment donné, parce qu'il y a quand même des chances que l'extrême droite arrive au pouvoir en 2027, et que l'extrême droite, elle aime pas trop l'organisation politique de gauche, et qu'il y a quand même des chances que l'appareil répressif de l'État il soit utilisé à son maximum.
Pour moi, c'est un peu toutes les dernières lois qui sont passées depuis le Covid, le fait que ouais, la génération qui arrive à la fac, c'est la génération confinement, tout ça. Bah, en fait, c'est des trucs où les gens étaient dans des situations extrêmement précaires. Et pour moi, quand t'es dans une précarité extrême, c'est extrêmement difficile de se concentrer sur des problèmes plus larges que les tiens qui sont relatifs à ta propre survie, quoi. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a une espèce d'individualisation, de dépolitisation, où bah, les gens, ils sont déjà en galère, ils se disent « bah non, j'ai pas le temps pour ça, en fait, je peux pas dégager du temps pour ça, j'en ai pas l'énergie, j'ai la rage, mais justement, en étant trop blasé, parce que bah, ça fait des années que rien n'a été gagné, quasiment. » Donc forcément, tu te dis « bah, à quoi bon, quoi ?» Et du coup, je pense que c'est plutôt ces trucs-là qui font qu'il y a une dépolitisation de plus en plus sur le campus, mais effectivement, je pense que ça a accentué aussi par le fait que la présidence grogne de plus en plus quand des fois il y a des conférences ou des réunions de groupe s'ils sont pas prévenus. Mais en plus, je pense que des fois, c'est même pas une volonté politique consciente, parce que par exemple, je sais que pendant les élections présidentielles, quand il y avait volonté de faire des conférences sur des sujets comme l'immigration, comme le fascisme, etc., ben, en fait, ils voulaient pas les faire parce que ils avaient peur, ils avaient profondément peur de l'extrême droite, des attaques qu'ils pouvaient faire, de comment ça pouvait se passer, de est-ce que mais les élèves ils pourraient être blessés, des choses comme ça. Mmh. Et du coup, ils cèdent un peu à la peur de ce truc-là et se dire bah non, du coup, on fait pas. Et comme ça, il se passe rien de grave, quoi. Sauf que pour moi, c'est pas la solution.
Fait de perdre comme ça cet espace, ne plus pouvoir s'y organiser, mais juste bah, y faire court et rien faire d'autre dedans, bah, qu'est-ce que ça pourrait causer un peu à l'échelle de Rennes ou même de la France ?
Pour moi, ça empêcherait beaucoup de personnes de se mobiliser, ça empêcherait beaucoup de personnes de rejoindre des espaces d'organisation politique. Et de fait, sur le long terme, ça finirait par taire l'effervescence politique qu'il peut y avoir à Rennes. À mon avis, ça dépolitiserait beaucoup la jeunesse en général, si les facs de sciences sociales, en tout cas, ne permettaient pas qu'il s'y passe ce qui s'y passe là maintenant en termes d'organisation. Quand les étudiants et étudiantes sont mis devant le fait accompli que bah, il se passe des choses et qu'ils entendent les revendications malgré elles, forcément, ça participe à quelque chose. S'il y avait plus ça, je pense que bah, y aurait moins de facilité à avoir accès à ces discours. Et dans l'espace public, à part les manifestations, les collages, les tags, ce genre de choses, il n'y a pas grand-chose. Du coup, je pense que ça poserait un vrai problème de ne pas pouvoir s'organiser sur la fac pour pouvoir mettre les gens devant les revendications qui les concernent.
Notamment pendant beaucoup de mouvements sociaux, les étudiants impulsaient un truc un peu radical ou au moins un truc de départ, de on craque l'allumette, on y va quoi. Et s'il n'y avait plus l'université, bah déjà en fait ça ferait, je pense, à nouveau une fermeture un peu du monde militant où du coup, bah ouais, tu peux aller dans la rue, tracter, etc. Mais à mon avis, c'est pas comme ça que tu vas convaincre quelqu'un d'être d'accord avec toi, de se questionner sur ce que tu portes et tout. Je pense que justement, avoir en fait un endroit à l'université où ça arrive, les gens ils finissent par s'intéresser au truc parce qu'ils recroisent plusieurs fois, parce qu'ils en entendent parler plusieurs fois, ils se disent ah ouais, c'est quoi ça machin, nan, nan. Ils vont faire l'effort d'écouter ou des choses comme ça. Bien, du jour au lendemain, c'est interdit, ça serait une vraie perte pour le milieu militant parce que, notamment aussi, bah, par exemple, tous les groupes autonomes qui n'ont pas forcément envie ni le temps, par exemple, d'ouvrir un squat parce que c'est très énergivore et qui veulent rester accessibles pour les gens qui ne sont pas encore trop politisés, qui viennent d'arriver, bah, en fait, la fac, c'est un endroit vraiment inédit pour pouvoir rencontrer les gens, porter des idées, faire des débats d'idées. Et tu peux t'organiser sans qu'on vérifie ta carte d'identité étudiante. Si par exemple t'es travailleur ou chômeur, ça permet au moins un lieu, entre guillemets, ouais, où les gens aussi se sentent en sécurité en se disant bon, ok, bah après les manifestations, on rentrait toujours à Rennes, pour pouvoir débriefer. Il y a un truc un peu peut-être réconfortant aussi de se dire bon, on est fatigué et tout, mais au moins on sait qu'on sera tous ensemble là-bas. Si un jour c'est interdit en université, je pense qu'en fait la politique reviendra une affaire de gens ultra spécialisés en fait, qui sont intéressés à ça, mais qui naviguent depuis plusieurs années dedans.
Je pense qu'il faudrait s'approprier de nouveaux espaces. Ce qui est important, je pense, c'est d'avoir des lieux qui sont à nous. Et le squat, c'est une façon d'avoir des lieux qui sont à nous, des lieux où on peut s'organiser politiquement. Avec la dynamique qu'il y a sur Rennes en ce moment d'AG autour du logement, il y a quand même une dynamique autour des espaces, notamment d'organisation, et je pense que finirait par y avoir une ouverture de squat qui serait tenue, défendue, comme il y a pu y avoir pendant le mouvement des retraites, avec la volonté d'avoir une maison du peuple, bon, qui n'a pas marché du tout, hein. Le cinéma Arvor a été squatté 2 jours et expulsé ensuite, mais je pense qu'il y aurait ça.
Ben, à Rennes, je ne verrais pas trop qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une fac, entre guillemets. Après, j'ai vu pas mal de tentatives, hein, de squattage de lieux, de différents endroits. Après, moi, je trouve une maison, par exemple, je trouve ça toujours un peu compliqué parce que généralement, bah, dans une maison, il y a des gens qui y vivent. Et pour moi, c'est très particulier, en fait, de vivre sur le lieu où tu fais de la politique en continu. Il y a un truc où, bah, en fait, oui, finalement, les gens qui vivent sur ce lieu-là, plutôt que ceux de l'extérieur, vont avoir plus de légitimité parce que, bah, ils vivent là. Mais du coup, ça aide pas vraiment au débat, enfin, ça peut être un peu compliqué. Je pense que la seule fois où j'ai vu un truc un peu similaire, mais finalement qui était très ouvert, c'était quand il y avait eu la première salle de la Cité en 2016, où en fait, c'était une salle qui était à l'abandon depuis super longtemps, et c'est vraiment d'un commun accord où il y a des groupes autonomes et des syndicats, et les gens de la manifestation qui n'étaient pas encartés, qui n'étaient pas organisés, qui se sont dit « ouais, c'est vraiment une bonne idée d'aller là-bas et d'essayer de faire un truc, et de se donner vraiment les moyens de se dire « bon, on fait une assemblée générale, enfin, certes les gens dormaient là-bas, hein, mais c'était vraiment un espace d'organisation pure et dure, c'est-à-dire il y avait la salle principale où t'avais les assemblées générales, 2 petites salles qui servaient pour des réunions et la radio qui servait à diffuser pour la radio pirate, quoi. Et du coup ça faisait vraiment une impulsion de bon ok, on se rencontre, on échange des trucs. Moi j'avais un peu retrouvé cette sensation-là de me dire ah ouais ok bon ça va.
L'université est importante, comment faire en sorte de la conserver et pas la laisser filer entre les doigts des personnes qui ont envie de faire plus que juste des études dedans.
Je pense qu'il y a toujours le truc de sentiment de communauté qui est hyper important mais qui est de plus en plus difficile à maintenir avec l'individualisation, même y compris des parcours scolaires où dès le collège tu vas devoir prendre des options et en fait tu seras jamais dans une classe fixe non plus. Faut réussir à faire vivre un sentiment un peu communautaire, même si j'aime pas trop ce mot-là, de se dire bon voilà, on est au même endroit, on a des expériences un peu similaires sur certains trucs, on est différent sur d'autres, comment on peut faire pour s'enrichir de ce truc-là. En fait, à ce moment-là, quand les gens sont confrontés à vraiment des choses assez dures dans leur vie, elles peuvent se dire, bon, ok, mon endroit d'études, c'est pas que l'endroit où je vais étudier et je rentre chez moi hyper dépité. C'est là où je peux échanger un peu et c'est hyper important aussi parce que c'est l'endroit où il peut y avoir des infirmières qui sont au contact des étudiants, des psys, des médecins. Donc réussir à prendre un peu soin de soi à un moment où t'en as pas forcément les moyens ou des choses comme ça. Je pense qu'il faudrait une prise de conscience de manière plus générale, de se dire ah oui, c'est vrai que c'est pas qu'un lieu où juste tu vas lire ton bouquin et rentrer chez toi, et que c'est hyper important de réussir à s'interroger un peu sur qu'est-ce qui s'y passe dans ce lieu-là, comment on fait pour que nos existences entre guillemets soient moins pénibles. Mais en fait c'est très compliqué, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à la fac qui finalement savent pas trop ce que c'est d'avoir des cours en commun avec plein de gens, de partager un truc en commun, parce qu'on leur a dit bah non mais il faut bosser chez vous, engranger, et si les gens sont de plus en plus dans la performativité, parce que c'est un peu le couteau sous la gorge qu'on a ça aussi pour nous dire ah, si tu veux réussir dans la vie c'est ça, forcément tu te mets la pression, tu te dis bon je reste chez moi et puis je vais bosser tout seul, et faut réussir à susciter un truc un peu social quoi. Mmh. Et qui est pas que autour de la fête ou je sais pas quoi, mais juste de la vie de manière en général.
Est-ce que tu penses à d'autres lieux qui sont aussi des lieux qu'on pourrait comparer à une fac en termes de politisation?
Je pense qu'il y a les lycées à prendre en compte. Moi, quand j'étais au lycée, notamment au Bréquigny, c'était un lycée qui était très connu pour être un lycée comme Rennes 2, en fait. C'était la version lycée de Rennes 2. C'était assez important en termes de politisation. Et sinon, en termes de lieux en dur de politisation, j'avoue que je vois pas grand-chose, mais il y a les lieux immatériels, les assemblées générales. Il y a des assemblées générales pour le logement, il y a des assemblées générales pour l'antispécisme qui s'organisent, bon, de fait, dans des lieux en dur qui sont les facultés, la plupart du temps, mais... je pense que c'est important de rejoindre ces espaces-là, rejoindre les collectifs, rejoindre ces lieux de politisation, parce qu'il n'y a pas trop autre chose à faire pour se politiser.
Une batte à l'ancienne, une guitare saturée, un cahier raturé, un couplet contrarié, minorité réprimée, militant harcelé, un besoin d'exprimer, une envie de tout cramer, je les entends aboyer, chien de garde affamé, facho enragé, je les entends arriver, suprémaciste affolé, obsédé.
abuse, mon odeur, mon langage de barbare, ma grande gueule, ma musique, mes coutumes, leurs cauchemars. J'écris, je râle, je suis borné, entêté, je suis têtu, je suis braqué, je suis inquiet, irrité, je suis ému, je suis heurté, Palestine occupée, j'ai promis, j'ai juré, pas de justice, pas de paix.
Show avec le morceau Outrage sur Canal B. C'était le choix musical de Corentin Petitclerc qui nous a proposé donc cette série de reportages sur Rennes 2, La Rouge. Le titre en question, vous pouvez le retrouver sur l'album Habibi Soudaka. C'est sorti en 2024 et c'est le cinquième disque pour ce projet collectif. Je crois qu'ils sont cinq projets de musique des Suds, de Lille et Roubaix, mais jusqu'à Valparaiso. Vous venez de les entendre dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Un programme à écouter du lundi au vendredi sur le 94.0, mais aussi sur canalb.fr, où vous pouvez ensuite retrouver les émissions en podcast, mais également toutes les émissions réalisées par des salariés, mais aussi de nombreux bénévoles, puisque Canal B est une association. Allez, on poursuit l'émission avec une rediffusion. C'est une interview qui est passée sur cette antenne le 11 juin dernier, mais le livre, lui, est toujours d'actualité. Philippe Baron, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes réalisateur, notamment pour France Télévisions ou encore Arte. Vous êtes rennais et l'auteur d'un documentaire dont on avait déjà parlé il y a un an sur Canal B, que vous prolongez aujourd'hui avec un livre, La part d'ombre de la libération, c'est son titre, c'est sorti il y a un mois et on va donc en parler aujourd'hui. Il faut dire que le point de départ à ce travail, c'est un livre que vous avez découvert, son nom Okedjo, signé de la main de Louis Guillou, qui est un Breton, et c'est venu, on va dire, bouleverser votre vision de ceux qui sont présentés comme des libérateurs, ces GI américains qui sont arrivés en août 1944 dans la région.
Oui, tout à fait. C'est vrai que quand j'ai lu ce petit livre qui fait 130 pages de Louis Guillou, qui s'appelle Okedjo, ça a vraiment ébranlé ma vision de cette libération. Bon, moi, j'avais fait des études d'histoire, donc, et c'était une histoire qu'on m'avait jamais raconté, c'est-à-dire que des exactions commises par des GIs américains, la ségrégation au sein de l'armée américaine, qui a fait que ces exactions, des viols hein, et des meurtres des fois commis envers des civils français, françaises et bretons, bretonnes, et qui étaient parfois poursuivis par l'armée américaine. Au sein de cours martiales, mais dont on se rend compte que seulement les soldats noirs étaient, enfin en tout cas les soldats noirs étaient les plus sévèrement punis. Et donc je découvre cette histoire-là en lisant le livre de Louis Guillou, voilà, une histoire qu'on m'avait jamais, dont j'avais jamais entendu parler. Pourtant j'avais fait des études d'histoire dans les années 80, mais c'était pas encore au programme, j'ai envie de dire. Faut savoir que ces histoires-là, les historiens, historiennes américaines ne s'en sont emparés, ont osé en parler que autour des années 2000. Voilà. Mais Louis Guillou, lui, en avait déjà parlé dans les années 70.
Et le tabou là que vous évoquez, il semblerait quand même qu'il se poursuive encore de nos jours, on va y arriver, puisqu'en ce moment on commémore les 80 ans de la libération. Pour revenir au documentaire, donc Okedjo, c'est le titre du documentaire que vous avez réalisé, dont on avait parlé l'année dernière, en prenant comme point de départ le livre de Louis Guillou, qui était dans sa vie à la fois traducteur mais aussi écrivain. Il est de Saint-Brieuc, il a donc été traducteur auprès de l'armée américaine. Il aura fallu attendre 1960 76 pour qu'il publie cet ouvrage, un récit que vous êtes allé confronter à la réalité, puisque dans le récit il y avait peu de mentions des lieux, des personnes, et vous êtes parti à la recherche de ceux qui sont encore là aujourd'hui, plutôt les petits-enfants, mais qui pour certains ont des souvenirs, notamment de pendaisons de soldats américains.
Oui, c'est ça, parce que bon, dans le livre de Guillou, il mentionne aucun nom de lieu ni de personne. Donc voilà, il y a eu un travail assez long d'enquête pour retrouver les endroits où ça s'était passé, pour retrouver les noms, pour retrouver des descendants. Et au début, c'était pas gagné. Puis voilà, je me suis rendu compte que voilà, j'ai fini par en trouver à la fois des descendants de victimes. Des gens dont le père a été tué ou la mère a été violée, et puis également des témoins, des personnes très âgées, mais qui se souviennent avoir assisté à des pendaisons, parce qu'il faut savoir que les soldats, les GIs noirs qui étaient condamnés à mort étaient bien souvent pendus en public, ce qui permettait à l'armée américaine de dire, voilà, regardez, on fait quelque chose par rapport à ces exactions, et implicitement, le discours était aussi de dire, c'est pas le problème de l'armée, c'est le problème des Noirs, quoi.
Ce que vous avez découvert, c'est qu'il y avait un biais clairement raciste et puis dans un contexte ségrégationniste. Donc au moment du traitement judiciaire, seuls les soldats noirs étaient condamnés à la pendaison. Quand il s'agissait de soldats blancs incriminés, eh bien c'est là que les témoignages des femmes étaient remis en question avec des dossiers souvent classés sans suite. Et il faut préciser que ces soldats noirs étaient vraiment traités à part au sein de l'armée américaine. Ils représentaient 10% des contingents et étaient plutôt voués à des missions d'intendance. Et ce qu'on avait aussi découvert dans le documentaire OK Joe, c'est qu'il y avait tout un tas de stéréotypes liés à ces soldats noirs, et bien qui ont voyagé en Bretagne et qui ont un peu bien marqué la naissance du racisme dans notre région. Ce qu'on n'a pas dit, donc vous êtes allé rencontrer des personnes sur place en Bretagne, souvent des petits-enfants de témoins ou de victimes d'exactions de la part de soldats américains. Les chiffres, difficiles de les avoir, les historiens parlent de milliers, voire de dizaines de milliers de viols sur les régions de la Bretagne et de la Normandie. Peut-être pour contextualiser un petit peu et puis comprendre ce phénomène là que vous avez découvert, les soldats sont arrivés dans une région avec des écarts énormes par rapport au mode de vie qu'ils connaissaient aux États-Unis et avec ces Françaises qui leur avaient été un petit peu vendues comme des récompenses, on peut le dire comme ça.
Oui. Alors c'était un discours implicite, mais il y avait tout un discours qui circulait au sein de l'armée américaine. J'ai envie de dire des préjugés sur la française un peu facile, un peu femme libre et qui saurait récompenser le libérateur. Voilà. Donc ce discours-là, ça, c'est, bon, c'était pas un appel au viol, mais c'était quand même. Voilà, un préjugé qui circulait, qui était relativement encouragé par l'armée américaine. C'est un préjugé qui datait déjà de la guerre 14-18, qui s'était transmis et qui permettait, j'ai envie de dire, bon, de motiver les troupes. Qui, bon, faut savoir que pour un soldat, pour un jeune américain qui sortait de sa campagne du Minnesota, bon, la France était bien loin. Il se demandait un peu ce qu'il allait faire là-bas, et ça permettait un peu de motiver les troupes. Bon, après les Américains, quand ils se sont rendus compte que ça prenait des proportions, hein, parce que voilà, les soldats se comportaient assez mal, n'arrêtaient pas de chercher à coucher avec les Françaises. Ils ont mis le holà, hein, ils ont organisé quelques procès.
C'est ici que le drame a eu lieu, 21 août 44. Donc, dans cette maison derrière.
Ask her. Demandez-lui. Oui, la jeune fille était allée au camp. Demandez-lui pourquoi faire. Pour voir, comme tout le monde, a répondu la mère. On disait qu'ils étaient si gentils. Il vous a suivi, a demandé le lieutenant Stone. La jeune fille ne le savait pas. Elle ne s'était pas rendue compte. Il allait faire nuit. On s'apprêtait à aller se coucher quand on a entendu marcher dans la cour. Le soldat avait appelé mademoiselle. Aussitôt, la mère avait fermé les volets, tandis que le père verrouillait la porte. Le père a crié au soldat de s'en aller. Il n'y a pas ici de mademoiselle pour vous. Le lieutenant Stone a voulu savoir si le père n'avait pas injurié le soldat, si par exemple il ne l'avait pas traité de sale nègre. Non. On lui a dit de s'en aller. Tout ce qu'elle pouvait dire, c'est que le soldat, devenu furieux, s'était mis à cogner dans la porte à grands coups de pied. La peur les avait pris. Ils se sont dit que la porte allait céder. Le père et la mère, s'accotant contre la porte, sont restés là longtemps, à pousser. Combien de temps? Je ne sais pas. Ils cognaient très fort, la porte tremblait. On poussait toujours. Il s'est arrêté. On l'a entendu marcher et on a cru qu'il s'en allait. C'est là qu'il a tiré dans la porte. Le père s'est écroulé, la moitié du crâne enlevé.
Si on se retrouve aujourd'hui, c'est que vous avez prolongé le travail de documentaire mené avec Ok Joe à travers un livre. C'est la maison d'édition Art Collection qui est venue vers vous. Il se trouve qu'il vous restait beaucoup de matière en fait à livrer au public que vous n'aviez pas pu utiliser dans le film, qui a un format voilà d'une cinquantaine de minutes, peut-être pas suffisant pour tout dire.
Ben, c'est souvent le cas quand on fait des films, voilà, on utilise peut-être 20 ou 30% de la matière qu'on a recueillie, et il me restait des documents écrits, des rapports de militaires, des rapports de gendarmerie, des photos, des interviews dont j'avais utilisé que 5 ou 10%, des cartes, des dessins, donc voilà, tout un matériel qui pouvait être intéressant dans un livre qui permet d'aller un petit peu plus loin que le film, de le prolonger. J'en ai profité aussi pour raconter, enfin c'est ce que l'éditeur m'avait un peu demandé, mais pour raconter un peu voilà comment je m'y suis pris pour enquêter, pour retrouver les témoins aux quatre coins de la Bretagne.
Alors vous parlez des quatre coins de la Bretagne dans ce livre donc qui s'intitule La part d'ombre de la libération. On y retrouve aussi des cartes des lieux pour se représenter un peu le territoire sur lequel ces exactions et puis aussi le moment du traitement judiciaire par l'armée américaine où tout ça s'est déroulé. Est-ce qu'il y a des territoires qui ont été plus concernés que les autres sur la région Bretagne ?
Sur la région Bretagne, non, c'est relativement homogène. On peut dire que la Normandie a été aussi très touchée, enfin la Manche notamment. C'est peut-être là qu'il y a eu le plus de procès, de poursuites de soldats américains. Après, c'est toujours pareil, c'est difficile d'évaluer où ça s'est passé parce que la plupart des viols n'étaient pas poursuivis, et voire même il n'y avait pas forcément de plainte de poser. Bon, faut se remettre dans l'ambiance chaotique de l'époque, et puis dans l'ambiance aussi de l'époque où les femmes ne portaient pas forcément plainte quand elles étaient violées. Donc, faut prendre ça avec des pincettes. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai retrouvé, c'est des traces militaires des procès qui ont eu lieu, et ça concerne essentiellement la Manche pour beaucoup, et après on suit l'avancée des troupes américaines qui libèrent la Bretagne depuis l'Est jusqu'à Brest.
On le redit
c'est
pour
le nord de la Bretagne, quoi.
On le redit pour mener les procès de soldats américains accusés d'exactions sur des civils français et notamment bretons. Il y a des cours martiales qui se sont installées dans des lieux qui n'étaient pas du tout voués pour ça, avec notamment une salle des fêtes à Morlaix qui s'est transformée en cours martiale. Et c'est ces lieux-là qu'on retrouve sur les cartes publiées dans votre ouvrage.
Donc, on a réussi à faire une carte qui reconstitue les lieux où ont été commis les exactions et qui ont été jugées. Et alors, c'est pas exhaustif, mais on a reconstitué 83 exactions commises par des soldats américains qui ont été jugées et avec les peines dont ils ont écopé. Et on voit très nettement que les soldats blancs qui sont poursuivis parfois écopent de peines de prison, et les soldats noirs écopent bien souvent de peines de condamnation à mort, et dont une bonne partie est exécutée sur place. C'est-à-dire que les Américains ramenaient les soldats et les exécutaient à l'endroit où ils avaient commis les exactions.
Alors, il se trouve que là, on échange au moment des 80 ans de la Libération. Il y a une mission Libération qui a été lancée à l'échelle nationale par le gouvernement. Et en Ille-et-Vilaine, on retrouve les archives départementales, par exemple, qui se sont saisies du sujet, qui ont construit une programmation. On l'a annoncé dans l'émission d'information locale, des sujets très intéressants. On y parle, par exemple, résistance, de la bataille de Normandie, de l'exil des républicains espagnols, de Rennes pendant la guerre. Mais pas de cette part d'ombre que vous racontez aujourd'hui dans un livre. Je me demandais pourquoi ça faisait pas partie. On pourrait imaginer une commémoration, mais qui évoque le sujet dans sa dimension complexe.
Oui, écoutez, je sais pas. Ça, il faudrait leur demander. Moi, je pense que c'est encore un peu tôt. Je pense que les historiens français se sont pas encore vraiment emparés du sujet. Les historiens américains ont commencé à débroussailler un peu le sujet. Moi, j'ai fait mes petites recherches et reconstitutions qui sont loin d'être exhaustives, qui sont loin d'être totales, sans doute. Moi, je sais que en faisant des projections du film, j'ai régulièrement des gens qui lèvent le doigt en disant oui, c'est ce que vous racontez, c'est l'histoire de ma mère ou de ma grand-mère qu'elle m'a raconté, mais je sais pas exactement ce qui s'est passé. J'ai commencé à faire des recherches, et donc je crois que c'est une histoire qui reste encore à écrire.
Cet ouvrage, vous parlez d'échange avec le public, vous le présenterez à la librairie Comment Dire à Rennes. Le rendez-vous, il est donné mercredi 12 juin à partir de 18h30, donc dans cette chouette librairie rennaise. Pour le film, depuis notre échange à l'été 2023, vous l'avez pas mal présenté au public dans la région, aussi à des publics scolaires. Au-delà, on va dire, de certaines personnes qui peuvent se reconnaître dans l'histoire là que vous explorez, ça fait naître quoi chez les spectateurs découvre justement cette facette de la Libération.
Oui, la plupart des gens la connaissent pas, donc ils sont très surpris. Et puis j'ai envie de dire, chez les jeunes, quand je les présentais devant des lycées ou même des collèges, je sens que ça a eu aussi une grande résonance avec des problématiques contemporaines, que ce soit des violences faites aux femmes ou que ce soit des problèmes de racisme. J'ai vraiment l'impression que chez les jeunes, ça leur parle, quoi.
Il y aura une autre occasion pour découvrir le film Hockey Joe que vous avez réalisé, qu'on pouvait voir l'année dernière sur la plateforme Cube, KUB ou encore sur le site de Public Sénat. Pour le moment, il n'est plus en ligne sur Internet, mais on pourra le voir à la rentrée au mois de novembre du côté des Champs Libres. Vous êtes peut-être même à la recherche de structures pour continuer à le diffuser et à ouvrir le débat sur cette question ?
Ah bah complètement, hein. Moi je suis complètement disponible et je suis ravi d'accompagner le film parce que ça provoque souvent des débats qui sont passionnants et puis je pense que c'est une histoire qu'il faut être capable d'assumer, de regarder en face, de faire connaître et qui n'enlève rien, j'ai envie de dire, à l'héroïsme du débarquement et à cet extraordinaire entreprise que ça a pu être, mais voilà, qui permet d'en montrer des zones un peu plus grises et puis de revenir aussi sur... Voilà, moi je pense qu'il faut regarder en face l'histoire dans sa totalité.
Oui, et puis d'une époque où, contrairement, je l'espère aujourd'hui, mais où le corps des femmes était à disposition des hommes, que ce soit des soldats américains ou d'autres d'ailleurs.
Absolument.
Je vous représente Philippe Baron, vous êtes donc réalisateur rennais, vous avez publié ce documentaire dont on avait parlé l'année dernière sur Canal B qui s'appelle Hockey Joe, on pourra le voir au Champs Libres le 17 novembre prochain, on aura le temps de le réannoncer sur les ondes de Canal B, et vous avez surtout prolongé ce travail avec un livre, La part d'ombre de la Libération, un récit d'une centaine de pages agrémenté d'illustrations qui est paru aux éditions Art Collection, son tarif est de 15 €, et on vous retrouvera pour une rencontre avec le public mercredi 12 juin, ça se passe à la librairie Comment Dire à Rennes et ça commencera à 18h30. Merci beaucoup Philippe.
Merci beaucoup, merci à vous. La 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 la
de moi. Je crois là.
Marie Cloc avec le morceau Les Cerisiers, mon cœur. C'est une nouveauté musicale qui a été présélectionnée par Yann, notre programmateur ici à la radio, et qu'on retrouve sur un album intitulé Damien est vivant. C'est un 10 titres sorti le 29 mars. Le premier disque pour cette musicienne, journaliste aussi, je crois, chez Libération, et qui rend là hommage à un ami poète et performeur qui est décédé, mais dont elle célèbre le souvenir avec ses chansons. Vous venez d'en entendre une sur Canal B dans l'arène, l'émission d'information locale qui, rappelez-vous, vendredi dernier s'est déroulée dans un format un peu particulier, 2 heures de direct sur le temps du midi avec des acteurs du champ culturel pour relayer les inquiétudes dans un contexte de possible arrivée au pouvoir d'ici quelques semaines du Rassemblement National. Si vous souhaitez réécouter cette émission en compagnie notamment de la FERAROC, la Fédération des radios associatives musiques actuelles, et puis aussi avec dedans un peu de live en compagnie du musicien rennais Rouge-Gorge, eh bien, le podcast est dès à présent en ligne sur le site canalb.fr. Vous le trouverez en page d'accueil.
Et arrêtons tout ce ciné. Viens dans l'herbe mouillée. Cueillir les primes vertes. Cueillir les primes vertes.
Avant de se quitter, il nous reste la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils modestes d'événements à vivre dans la région rennaise. Parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou encore de documentaire. Et donc aujourd'hui, eh bien c'est un peu des deux, puisqu'on annonce une rencontre littéraire, un nouveau format imaginé par l'association Rue des Livres. Ça s'appelle Une Heure Avec, et l'idée c'est de mettre en avant à chaque fois un coup de cœur littéraire. Pour la date qui arrive, il s'agit du livre Traverser les forêts de la rennaise Caroline Hinault. C'est sorti au printemps aux éditions du Rouergue. Alors on l'avait déjà reçu en studio, Caroline Hinault, pour son précédent ouvrage Incarnat. Je vous recommande les deux livres. Je vais d'ailleurs essayer de l'inviter à la radio cet été. Je vous donne un petit aperçu du livre Traverser les forêts qui est sorti au printemps. 3 femmes, une forêt, et cette forêt, c'est la dernière forêt primaire d'Europe aux confins de la Pologne. C'est là que vit Vera, journaliste biélorusse exilée. C'est là qu'est revenue s'installer Nina, elle qui a rêvé que sa beauté lui ouvrirait les portes de l'Occident. C'est là enfin où patrouillent désormais les militaires. Kalma tente de franchir la frontière. Sans qu'elle le sache, la forêt va entremêler le destin de ces 3 femmes. Un roman qui est inspiré, on le précise, d'événements qui ont eu lieu à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. C'était à l'automne 2021. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet ouvrage et puis rencontrer l'autrice, ça se passe au Cadet de Bretagne, dans le quartier Maurepas à Rennes, mercredi 26 juin à partir de 18h30. Une rencontre et un échange qui sont gratuits et ouverts à tous. C'est terminé, une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.